Sur France Inter, voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. Dans l'actualité de ce dimanche, jour de vote en Russie, sans grande surprise, Vladimir Poutine devrait retrouver pour la quatrième fois son poste de président. Scrutin également à Mayotte, il s'agit d'une législative, les bureaux de vote sont ouverts depuis 2 heures maintenant. Le retour du froid également dans l'actualité. À 2 jours du printemps, une vague de froid déferle sur le nord de la France. Au programme, neige et température basse. Ouverture aujourd'hui à Brasilia du 8e Forum mondial de l'eau, un liquide vital qui pourrait venir à manquer en raison du réchauffement climatique. Enfin, côté rugby, le 15 tricolore rate d'un souffle la 2e place du tournoi Destination, battu 14 à 13 par les Gallois. Les Bleus terminent 4e de ce tournoi remporté par les Irlandais. Et puis, 2 nouvelles médailles aux Jeux paralympiques d'hiver. Rendez-vous dans le Journal des Sports à la fin de cette édition. On vote donc aujourd'hui en Russie pour l'élection du président, un scrutin sans grande surprise puisque le candidat sortant Vladimir Poutine, crédité de près de 70% des intentions de vote, devrait sans difficulté être réélu pour un 4e mandat, mais un scrutin sur fond de crise diplomatique avec l'Europe et tout particulièrement la Grande-Bretagne puisque Moscou est accusé par Londres d'avoir empoisonné sur son territoire un ex-espion soviétique. Toujours est-il que les bureaux de vote ont commencé à ouvrir leurs portes dès 21h hier soir, heure française. Je vous rappelle que la Russie compte pas moins de 11 fuseau horaire. À Moscou, l'ouverture s'est faite il y a maintenant 2 heures de cela. Moscou, où se trouve notre envoyé spécial Bertrand Galichier. Alors Bertrand, y a-t-il du monde à aller voter ce matin? Et dans quel état d'esprit les moscovites que vous avez pu rencontrer vont-ils remplir leur devoir électoral?
Eh bien Serge, malgré le froid plutôt vif, une petite file d'attente s'est formée dès le début de la matinée devant le bureau de vote 145 à 200 mètres de la Place Rouge et du Kremlin, un bâtiment moderne dont l'entrée est décorée de ballons blanc, bleu et rouge aux couleurs de la Fédération de Russie. Et c'est de ce bureau que sort un électeur venu en famille de la région de Koursk, près de la frontière ukrainienne.
On a fait un bon choix pour la Russie.
Est-ce que vous voulez que la Russie continue sur la même lancée qu'aujourd'hui, ou est-ce que vous attendez des changements?
Je crois que la direction choisie par le président est correcte et que le développement et les perspectives décidées pour 2020 à 2030 se réaliseront.
Ce tourisme électoral est favorisé par une nouvelle disposition qui permet aux Russes de voter où ils veulent, dans tout le pays. Yulia, une jeune mère de famille moscovite en manteau de fourrure, préfère ne pas dire quel bulletin elle s'apprête à déposer dans l'urne.
Je veux un candidat digne pour renforcer notre pays sur la scène internationale.
Comme à chaque élection, ici, de jeunes militaires en uniforme votent par groupe, soigneusement encadrés. L'administration russe a envoyé aux autres électeurs des millions de SMS et de mails pour les inciter à voter.
Bertrand Galichet en direct de Moscou avec Pierre Quintard pour les moyens techniques. Et puis autre scrutin sur l'archipel de Mayotte cette fois-ci où l'organisation de législatives partielles a finalement été maintenue en dépit d'un contexte social particulièrement tendu. Premier tour ce dimanche, second tour dimanche prochain, nous y reviendrons dans le journal de 9h. Et puis législatives partielles encore ce dimanche dans le Loiret et en Haute-Garonne.
Et toujours à propos de politique, il y aura cet après-midi à Paris un séminaire gouvernemental.
Et oui, il s'agit du 5e séminaire gouvernemental organisé depuis la nomination d'Édouard Philippe à Matignon. Des séminaires dont la fréquence est d'un par trimestre, avec Karine Bécard, toujours le même objectif.
On ne change pas une méthode qui fonctionne. Voilà ce qu'explique l'entourage du Premier ministre. L'objectif de ce séminaire, c'est comme toujours de coordonner au maximum l'action du gouvernement, c'est-à-dire éviter les couacs, faire en sorte que tous les ministres continuent à s'exprimer sur le même ton et de la même façon. Cela dit, il y aura tout de même une petite nouveauté, parce qu'après 10 mois passés à exercer le pouvoir, chaque membre du gouvernement sera pour la première fois invité à se raconter, à dire ce qui se passe bien, mais aussi, et bien sûr, ça restera entre collègues, ce qui pourrait éventuellement poser problème. Reste un dernier détail, ces séminaires qui sont habituellement organisés à l'Élysée ou à Matignon, cette fois, tout le monde est convoqué dans une école un dimanche après-midi. Mais cette école Ferrandi, dans le 6e arrondissement de Paris, est un modèle en termes d'apprentissage et de formation professionnelle, manière de souligner les réformes du gouvernement, forcément.
Et j'ajoute que c'est le ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui sera de 12h à 13h sur France Inter, l'invité de questions politiques.
Et dans l'actualité de ce dimanche, ceux qui sont au nord de Paris le savent, le froid, le retour à 2 jours du printemps.
Venu de la Russie et de Finlande, une nouvelle vague de froid s'est en effet abattue hier sur tout le nord de la France et la région parisienne. Une baisse des températures qui a du coup transformé la pluie en neige. Une situation qui a même poussé les pouvoirs publics à réactiver le plan Grand Froid en Ile-de-France. Et pourtant, rien d'anormal pour les météorologues. Cette fin de l'hiver est à l'image de la saison, si l'on en croit Olivier Proust, prévisionniste à Météo France.
C'est un hiver contrasté, avec beaucoup de phénomènes remarquables. Un petit peu tout de l'hiver nous est arrivé cette année. On retiendra des enneigements exceptionnels dans les Alpes, des crues importantes au cours du mois de janvier, des passages de neige en plaine remarquables, également quelques tempêtes. La pluviométrie a été très excédentaire sur une grande partie du pays. Ça n'atteint pas des records, mais ça a été un hiver particulièrement arrosé. Les températures ont été extrêmement contrastées, avec une période allant de fin décembre à fin janvier remarquablement douce, mais sur la saison, on devrait être autour de 0,5 degrés en moyenne par jour de plus.
Deux Français, deux Alsaciens ont été retrouvés morts hier dans le secteur de Verbier. En Suisse, emportés par une avalanche, deux autres personnes, dont une fois encore un Alsacien, sont toujours portées disparues.
L'ouverture aujourd'hui au Brésil du plus grand rendez-vous sur l'eau à l'échelle planétaire.
Ce sont pas moins de 10 000 participants venus de 160 pays qui vont se retrouver aujourd'hui à Brasilia pour discuter durant 6 jours, échanger, tenter de sensibiliser les politiques à tous les problèmes liés à l'eau. Parmi les participants à ce 8e forum mondial de l'eau, Jean Bosco Bazier, le directeur de l'ONG Eau Vive International. Il espère une véritable prise de conscience car il y a urgence, comme il l'a précisé à Rosélie Lafarge.
On va droit dans le mur. Il faut que l'humanité se rende à l'évidence que l'eau, on va probablement manquer, pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres éléments de la nature. Du coup, il y aura de plus en plus de batailles pour son accès et son contrôle. Et donc, on va s'enliser parce qu'il va falloir se battre. Les animaux et les hommes vont finir par se battre. Le peu qu'il y a, il faut le partager. Et c'est pas les solutions qui manquent, mais c'est parce que simplement, nous sommes assis sur des habitudes destructrices. Et il faut qu'on regarde ce que chacun peut faire et ce que chacun doit faire. On peut changer de façon de faire, de façon de vivre, donc de produire, de manger, de fonctionner, sans que ça ne soit une perte. Il faut essayer autre chose pour voir que c'est possible de faire autrement et que ce sera mieux pour nous.
Et d'après Coalition Eau, un collectif regroupant 30 ONG françaises du secteur de l'eau et de l'assainissement, 40% de la population mondiale devrait être confrontée à des pénuries d'eau d'ici à 2050 en raison du réchauffement climatique. C'était aussi un 18 mars, mais le 18 mars 1871 qu'éclatait la Commune de Paris, une période insurrectionnelle dans l'histoire de la capitale qui a duré un peu plus de 2 mois et au cours de laquelle 20 000 personnes allaient trouver la mort. Une période qui a inspiré Raphaël Messant pour en faire une BD originale à partir de gravures d'archives. Son titre, Les damnés de la Commune, Jacqueline Pétrose.
Parce qu'un communard appelé Lavalette habitait son immeuble à Belleville, Raphaël Messant est parti à sa recherche. Ni dessinateur, ni scénariste, mais graphiste, il a monté cette BD comme un reportage numérisant plus de 15 000 documents d'époque. Et dans l'histoire de Lavalette et de Victorine, qu'il nous raconte intensément, tout est vrai, Raphaël Messant.
J'ai raconté une histoire à travers ces images, avec cette particularité qui est que c'est avec leurs yeux, c'est avec la manière dont eux-mêmes se représentaient, et c'est avec leurs mots. C'est le témoignage de Victorine, cette femme qui raconte dans ses mémoires ce qu'elle a vécu pendant la Commune, et puis les archives sur Lavalette, mon voisin communard, dont je raconte l'histoire sans la trahir, sans jamais inventer, sans romancer, parce qu'elle est tellement incroyable que ça suffit. Pour moi, la Commune, en fait, c'est la fondation de notre République, mais pas sur les idéaux de la Commune, sur les morts de la Commune. Et c'est cette République qui n'est pas la République dont rêvaient les communards, qui n'est pas une République sociale dans laquelle aujourd'hui nous vivons.
Le non-conformisme de l'idée, la virtuosité du découpage et l'histoire nous entraînent avec un souffle formidable. Les damnés de la Commune nous enseignent cette page d'histoire souvent ignorée, comme on l'a rarement lue.
La Commune est en lutte et demain nous vaincrons.
Les damnés de la Commune, paru chez Delcourt, une BD qui a dû être réimprimée compte tenu de son succès, alors qu'un second tome est d'ores et déjà prévu. C'est à vous, Éric Delvaux, c'est la fin de ce journal.
C'était le journal de Serge Martin. Merci Serge.